Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous sommes dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie. Nous allons parler aujourd'hui de la cathédrale de Chartres en chantier et comme toutes ses sœurs cathédrales, Notre-Dame de Chartres nécessite régulièrement pour son entretien de lourds travaux. Depuis quelques années, ont ainsi été conduites un certain nombre d'opérations de restauration diverses sur les couvertures, les maçonneries, les vitraux et la statuaire. Pour parler des principales étapes des restaurations actuelles, mais aussi peut-être des campagnes de restauration du passé, des choix des techniques de restauration, j'ai invité M. Patrice Calvel, qui est architecte en chef des monuments historiques et responsable des travaux menés à la cathédrale de Chartres. Bonjour, Monsieur Calvel.
Bonjour, madame.
Bienvenue dans notre émission. Nous allons faire une émission sur la conservation et la restauration de la pierre, et peut-être une deuxième émission dans l'avenir sur les vitraux, qui demandent aussi beaucoup d'interventions. Donc, conservation et restauration de la pierre dans un monument historique, c'est quelque chose de bien spécial. Et on va peut-être commencer... D'abord par une petite introduction de votre tâche en tant qu'architecte en chef des monuments historiques. Vous menez donc les travaux, vous êtes responsable du choix des entreprises, j'imagine. Donc peut-être nos auditeurs seront ravis de savoir un peu comment vous procédez.
Voilà, l'architecte n'est en aucun cas responsable du choix des entreprises. L'architecte est responsable du projet, il est responsable de la gestion du chantier, mais le choix des entreprises se fait par les procédures habituelles du Code des marchés publics et d'appel d'offres. Donc c'est quelque chose qui relève de la Direction régionale des affaires culturelles de la région, qui est à Orléans, la DRAC, qu'on appelle communément la DRAC. Je fais partie évidemment des commissions d'appel d'offres, puisque j'ai établi les projets, ce qu'on appelle les DCE, les dossiers de consultation d'entreprise, qui sont basés évidemment sur un fonds scientifique et technique et sur des chiffrages, sur une estimation. J'établis une estimation de la valeur des travaux et ensuite nous procédons dans le cadre du Code des marchés publics à des appels d'offres et je n'ai aucune latitude de choix personnel des entreprises, ce qui est le simple bon sens.
Hein. Et vous surveillez donc les travaux, vous
Alors je surveille vous les travaux, je ne surveille pas les travaux, l'architecte n'a pas à surveiller les travaux, l'architecte a les diriger, c'est-à-dire à s'assurer qu'ils sont faits selon son projet et surtout son projet qui est complété par les avis des instances techniques et scientifiques supérieures qui sont l'Inspection générale des monuments historiques, éventuellement la Commission nationale. Quand il y a discussion, quand le projet de restauration peut devenir un cas de doctrine, si vous voulez. Bon, ça n'est pas si fréquent que ça, heureusement. Pour Chartres, nous n'avons pas trop ce problème, bien que nous posions, par exemple, à propos de la pierre, de sérieuses questions sur la poursuite du nettoyage de la pierre au laser et la façon de le faire.
Voilà, surtout par exemple. Pour la statuaire, j'imagine,
pour la statuaire,
parce que c'est une pierre très tendre. Alors, on peut peut-être parler justement de la qualité de la pierre. Tout le monde sait que la cathédrale a été construite avec la fameuse pierre de Bercher,
oui.
Qui a certaines propriétés.
C'est une pierre remarquable. C'est peut-être la facilité majeure de l'entretien de cette cathédrale, c'est que la pierre de Bercher, qui est évidemment une pierre locale, la carrière est à moins de 10 km, est une pierre extrêmement dure, extrêmement robuste. C'est un calcaire lacustre qu'on appelle habituellement une pierre marbrière parce qu'elle est aussi robuste et elle prend presque le poli aussi bien que le marbre et elle est très résistante, elle ne s'use pas en quelque sorte et en même temps elle a un aspect assez curieux parce que c'est ce qu'on appelle une pierre éveillée, c'est-à-dire qu'elle est pleine de trous, de nodules qu'on ne peut absolument pas éliminer parce que quel que soit le banc dans lequel on tire les blocs, on a toujours ces innombrables trous. Mais si vous voulez, en dehors de ça, à part ça, et malgré cela, si on peut dire, elle est d'une robustesse absolue.
Donc on admire surtout la blancheur de cette pierre, mais vous faites partie
qui n'est pas si blanche d'ailleurs.
Oui. Qui n'est pas si blanche, elle a un côté un peu doré. Mais alors au Moyen-Âge, il paraît que toute la pierre était recouverte de peinture et vous faites partie d'un groupe de recherche et on vient de trouver justement dans ces trous de la pierre
voilà.
Des choses intéressantes.
Non, ce qui s'est passé, en fait, comme cette pierre était éveillée, c'est-à-dire pleine de trous, les entreprises de l'époque, enfin les entreprises, les tailleurs de pierre, les équipes de l'époque qui construisaient la cathédrale bouchaient ces trous, ils les bouchaient à la chaux. Et ensuite, on badigeonnait. J'ai enfin découvert de façon certaine que même à l'extérieur, la cathédrale était peinte et pas uniquement sur les portails, comme on le voit partout à Bourges, à Étampes et comme on le sait pour nos portails à nous, puisque on a trouvé des traces de polychromie. Donc, si vous voulez, j'ai la preuve maintenant, grâce aux échafaudages lancés autour du chœur pour restaurer les vitraux, qu'elle était peinte avec un badigeon ocre jaune et qu'il était ce badigeon était couvert au moins partiellement par des coupes de pierre, exactement comme à l'intérieur. Mais ça ne m'étonne pas, parce que les anciens, qui étaient certainement des artistes, mais il n'y a pas d'art sans technique, et c'était d'abord d'excellents techniciens, protégeaient les matériaux. On ne laisse pas le bois apparent, toutes ces mœurs modernes héritées du mouvement hygiéniste du XXe siècle sont de graves sottises, on ne laisse pas les maisons en pan de bois apparent, on ne laisse pas la pierre apparente, on la protège, on l'enduit, on la peint, on peignait tout. Et pour protéger les monuments, et pour enchanter le monde, et pour les croyants, pour témoigner aussi de la splendeur de Dieu.
Quelle belle explication de cette polychromie dont on a donc retrouvé des traces. Au sujet de la polychromie des statuaires, est-ce qu'on a trouvé suffisamment de traces à Chartres pour reconstituer un peu, peut-être par des lumières ?
Pour le portail nord, non. On réinvente, si vous voulez, par assimilation avec ce qu'on a trouvé, par exemple, à Amiens et sur beaucoup d'autres portails. Je ne citerai que l'exemple des portails de Bourges où on a des couches superposées de polychromie qui ont été refaites. Mais au portail sud, qui n'est pas encore nettoyé, mais sur lequel j'ai mené une étude très très longue avec Emmanuel Caillé, qui a malheureusement disparu, nous avons trouvé une quantité impressionnante de traces de polychromie rien que sur le tympan central.
Et ceci malgré les restaurations du 19e siècle.
Malgré les restaurations du 19e, malgré le manque d'entretien, les polychromies ont mieux survécu au sud qu'elles n'ont survécu au nord, où il semble qu'elles aient été énormément grattées, puisqu'à partir, disons, du 17e siècle, même du 16e, toutes ces polychromies sont rejetées, comme ne relevant plus du bon goût, puisque le bon goût, c'est d'imiter la statuaire antique, que on retrouve blanche à l'époque, parce que elle aussi, qui était polychrome, avait perdu ses couleurs à force d'être enfermée dans la terre, où ça avait été abandonné, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, en tant qu'enfant, les statues des empereurs romains sans yeux m'avaient toujours impressionné. Je me disais que c'était quand même pas très, très réaliste et très beau.
Ben, on fait des reconstitutions actuellement de polychromie antique.
Oui, parce qu'on trouve des statues qui comportent encore de la polychromie.
Voilà, le célèbre Auguste de Porta Prima, la célèbre statue d'Auguste en cuirasse de Porta Prima. On sait maintenant qu'elle était colorée avec des couleurs qui sont pour nous insupportables, avec des bleus pâles, avec le visage peint, avec les pommettes roses, enfin des choses qui pour nous...
Ah bah les pommettes roses sont très importantes puisqu'elles indiquent la vie, c'est une incarnation de la statuaire.
Exactement.
C'est très intéressant, on va faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Bon.
Nous sommes à Radio Grand Ciel, dans le studio avec Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques, et nous étions en train de parler de la conservation et de la restauration de la pierre dans un monument historique, dans la cathédrale de Chartres, en l'occurrence, et nous voulons parler avec vous, cher monsieur Patrice Calvel, de la restauration toute récente de la façade sud, qui nous permet de parler de la pierre, qui nous a permis de parler de la peinture, de la polychromie. Alors, que s'est-il passé pour la façade sud ?
Bon, la façade sud, la façade du pignon de Transep Sud, si vous voulez, est particulièrement révélatrice de ce que peut être une campagne de restauration et de ce qu'ont été aussi les restaurations anciennes, surtout les restaurations du 19e. Bon, on sait qu'au début des années 1220, la cathédrale était très très avancée, tellement avancée qu'elle avait été construite un peu vite, et on sait que dans les années 1400, il a fallu reconstruire les trois pignons de la cathédrale qui avaient été bâtis un peu vite et qui menaçaient dont la stabilité n'était pas assurée. Et ça s'est révélé tout à fait exact, en particulier pour le pignon sud, dont toute la partie supérieure, stylistiquement, une fois que les échafaudages étaient en place, on a pu évidemment le voir de près, les deux galeries superposées sont d'un style un petit peu plus récent, le style de la sculpture est un peu plus récent que les portails en dessous, bien entendu. Et ensuite, je me suis rendu compte, à l'occasion toujours du chantier, que vraisemblablement le décor de colonnes, de colonnettes en délit qui montent sur toute la hauteur de cette façade sont un ajout certainement au projet initial. Alors, c'est une vision d'architecte qui voit comment c'est construit, et ça a été, il faut le dire très clairement, si l'effet général est magnifique, la construction de détails est extrêmement médiocre et a été menée à toute vitesse, ce qui nous a obligés d'ailleurs à intervenir assez lourdement, en particulier sur la fixation de ces colonnettes. Mais je suis persuadé, et j'espère que les historiens pourront confirmer cela, que ce décor a été rapporté sur des murs qui ont peut-être paru un petit peu nus, un petit peu austères. Bon, voilà en gros pour le Moyen-Âge ce qu'on sait. Après, évidemment, ça a été entretenu plus ou moins normalement au cours des temps. Et puis, les grosses campagnes de restauration sont intervenues au XIXe siècle. La plus importante a suivi une tempête en 1846 ou 48, à peu près équivalente à celle que nous avons vécue en 1999, où les vitraux ont été très gravement atteints et la rose sud a été pratiquement enfoncée par la tempête. Et cette grande rose a été en 1874 purement et simplement démolie et reconstruite à neuf.
Au contraire, le remplage.
Les vitraux avaient été déposés. Il y a une partie des vitraux, quelques-uns des oculis qui sont neufs, deux, qui sont totalement neufs. Les autres ont été plus ou moins restaurés. Mais enfin, bon, les vitraux ont été sauvés et ils ont tout démonté. Et remplacer la rose avec une pierre de l'Oise. Et ils ont aussi remplacé la balustrade supérieure, qui est une suite de quatre feuilles de tables de parapet découpées en quatre feuilles, qui a été aussi taillée dans une pierre de l'Oise beaucoup plus fragile. Résultat de cette affaire, il y a eu beaucoup d'interventions aussi sur toute cette façade, en particulier les grandes pierres de l'Armier, qui permettent de chasser l'eau et d'éviter le ruissellement le long des murs, ont été largement remplacées. Résultat de cette affaire, on se retrouve au sud avec une rose qu'on a pu conserver, mais qu'il a fallu restaurer quand même assez lourdement, alors que la rose nord, qui date, elle, du temps de Blanche de Castille, est intacte et qu'on a changé juste quelques cailloux, on a été obligé d'intervenir et de faire beaucoup de ragréage sur la rose sud, qui perdait beaucoup dans la modénature s'effaçait, se fondait. Et puis la pierre qui a été utilisée ensuite pour la balustrade haute en quatre feuilles, qui est de la Saint-Pierre-Aigle, qui est l'équivalent de la pierre qu'on utilise maintenant en restauration pour Notre-Dame de Paris, qui n'est pas une mauvaise pierre, mais qui a été un petit peu employée à contre-emploi là-haut, il a fallu démonter totalement cette balustrade des années 1875, disons, et la remplacer en totalité parce qu'elle était extrêmement menaçante. En fait, au contraire de la façade de Pignon Nord, de Transept Nord, où on s'est contenté de restaurer les portails et de restaurer les vitraux, au sud, j'ai jugé absolument nécessaire et proposé à mon administration qu'avant de restaurer les portails, nous commencions par les parties hautes, parce qu'elles présentaient tellement de points dangereux pour le public et pour le monument qu'il fallait commencer dans un ordre logique. Et à cette occasion, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une très grosse restauration, il y a eu une énorme restauration de la cathédrale, une campagne qu'on date habituellement de 1898-99-1901, où on a amené beaucoup de pierres modernes, et par exemple sur ce pignon de Transept Sud, j'ai été pratiquement obligé de remplacer, ce que je n'avais pas prévu au départ, à peu près le tiers de la pierre du XIXe siècle, et en partie les larmiers, car ce qu'on ne voyait absolument pas, c'est que ces larmiers étaient fracturés, alors que les larmiers du XIIIe siècle en pierre de Berchère, pleines de trous, sont intacts. Donc, l'impératif que nous nous sommes donné, c'est de remplacer les pierres du 19e, qui n'étaient pas de la pierre de Berchère, par de la pierre de Berchère et de revenir au matériau d'origine, puisque nous avons cette chance assez rare, en France comme en Europe, d'avoir toujours ouverte la carrière d'origine de la cathédrale, ce qui est quelque chose qui est quasi magique et dont il faut absolument exploiter les ressources.
Donc effectivement, on a dû reconstruire deux tourelles entièrement.
Voilà, mon prédécesseur Guinico avait déjà reconstruit entièrement, démonté et remonté la tourelle sud-ouest. Et de mon côté, l'année dernière, j'ai démonté et remonté la tourelle sud-est, qui en plus avait été déjà démontée au 19e siècle et armée de chaînages en fer forgé qui se sont corrodés, qui ont gonflé la pierre, qui ont soulevé les lits de plusieurs millimètres, même centimètres. Donc il a fallu démonter tout ça, remplacer tout ça, échanger pas mal de pierres. Et puis après, au fur et à mesure, on est descendu, on a remplacé des colonnettes en délit, on a gardé celles qui étaient bonnes du 19e siècle, celles qu'on a changées, on les a refaites en pierre de Berchère. Et on est intervenu aussi pas mal sur les bases et les chapiteaux qui étaient assez mauvais état. Surtout les bases. Avaient beaucoup souffert.
Les colonnettes en délit sont donc les colonnettes qui sont purement d'ornement, qui ne portent pas de poids.
Qui sont purement ornementales, qui sont posées sur une base qui a été posée sur une plinthe de pierre, qui ont été découpées en arrière juste pour les poser contre. Et puis on a monté des colonnettes qui montent quand même sur près de 20 mètres de haut et qui sont fixées par des broches. Des goujons en fer forgé scellés au plomb. Et puis en haut, il y a des chapiteaux. Alors, toute une variété de chapiteaux, très, très dissemblables. D'ailleurs, on se demande si ce ne sont pas des chapiteaux préfabriqués, comme on faisait beaucoup dans les carrières, et qui ont été ramenés ici pour agrandir ce décor, si vous voulez, enrichir ce décor avec tous les matériaux qu'on a trouvés sous la main. Et alors, en les découpant sauvagement, soit en découpant les chapiteaux, soit en découpant les angles de la pierre. C'est absolument ahurissant à voir, mais l'effet est prodigieux. L'effet est prodigieux.
Vous dites des colonnettes de 20 mètres de haut d'un seul coup.
L'ensemble, mais c'est fait en tronçons qui font en moyenne 1,50 m à 2 m.
Est-ce qu'on sait quelque chose de la pierre de tonnerre qu'on utilise pour la statuaire?
Oui, enfin, il y a plusieurs pierres. Il n'y a pas que la pierre de tonnerre. Il y a aussi des pierres du bassin parisien, des pierres de Vaugirard, des pierres de l'Oise. Qui sont, elles, des pierres beaucoup plus fines, qui sont des calcaires plus classiques, plus tendres, qui permettent de sculpter aisément, bien évidemment. La pierre de Berchère ne se prête pas bien à la sculpture, parce qu'elle est très dure, mais on a quand même réussi un ou deux chefs-d'œuvre en pierre de Berchère, et en particulier la clé de voûte du Grand Cœur qu'on vient de découvrir, qu'on vient de nettoyer, et on a trouvé une représentation de Dieu le Père qui est assez exceptionnelle comme portrait.
Peinte sur la clé
qui est sculptée dans la pierre, qui est peinte après, mais qui est sculptée dans la pierre.
On va en parler après une toute petite pause musicale. Voilà à nouveau dans le studio. Nous parlions avec Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques, de la restauration, de la conservation de la pierre dans la cathédrale de Chartres, un monument historique si l'on est. Et M. Calvel venait de nous expliquer les problèmes que l'on peut rencontrer quand on doit défaire des restaurations du XIXe siècle qui finalement se sont moins bien conservées que les choses construites au XIIIe siècle. Vous nous parliez des chaînages du XIXe, mais je crois que comme on a démonté certaines parties de la façade sud de la cathédrale récemment, on a découvert des pièces de fer qui vont pouvoir peut-être être datées. Parce que vous faites partie d'un groupe de recherche sur les matériaux de construction de la cathédrale.
Absolument, absolument. Je me suis rendu compte en faisant du steeplechase dans les bas-côtés, en enjambant les seuils des portes qui sont creusées dans les refends des bas-côtés, qu'il y avait des moignons de fer qui apparaissaient par-ci, par-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était d'anciens chaînages qui avaient certainement été mis en place au moment de la construction. Alors, on a déjà pu dater la construction de la nef par les vestiges de bois, des vestiges des tirants de bois qu'on a trouvés au-dessus des chapiteaux de la nef, des fils de colonne entre la nef et les bas-côtés. Au demeurant, on s'aperçoit qu'il y a aussi matière à travailler sur le fer. Contrairement à certaines légendes qui courent, on a beaucoup utilisé le fer dans les monuments anciens. Donc il est important qu'on prenne enfin en considération ces vestiges métalliques qu'on rencontre dans cette cathédrale.
C'est vrai qu'on ne se doute absolument pas de l'importance du fer dans les constructions gothiques, puisqu'on croit que la seule technique de construction aurait permis de faire ces monuments fabuleux, mais on ne faisait pas confiance à la pierre, donc il y avait toujours un renforcement.
Le problème, c'est qu'on était très audacieux à ces époques-là, et par exemple à Aix-la-Chapelle, le dôme de la chapelle d'Aix-la-Chapelle est ceinturé à la fois par un chaînage en bois et par un chaînage en fer. Alors ça, c'est contemporain de Charlemagne. Donc le fer n'a jamais été méprisé.
Non, mais on a pu, grâce à l'invention du marteau hydraulique au XIIe siècle, faire des chaînages beaucoup plus importants, travailler plus vite sans doute, garder la bonne qualité du fer qui aujourd'hui nous étonne par sa qualité.
Absolument.
Parce qu'en ayant été battu plusieurs fois, on a enlevé les impuretés du fer, ce qui ont fait donc un matériau
particulièrement robuste et qui se corrode très peu.
Très peu.
Les matériaux médiévaux se corrodent très peu. Alors je vous disais tout à l'heure que les chaînages mis au XIXe siècle dans une des tourelles de du transept sud n'ont pas tenu et au contraire ont failli, en se soulevant, en gonflant, ont failli renverser la tourelle.
Est-ce que le fer du Moyen-Âge était systématiquement protégé par une couche de plomb qui empêchait la corrosion?
Pour les scellements, oui, mais pas systématiquement partout.
Peut-être là où effectivement l'humidité ne pouvait pas atteindre le fer.
Normalement, l'humidité ne devait pas arriver jusqu'au fer dans certaines parties, n'est-ce pas? Après, c'est un problème d'entretien. Le problème de souvent nos drames, c'est des carences d'entretien qui font que l'eau finit par s'immiscer partout.
Et donc, dont le rôle sans doute aussi de la polychromie, comme vous le disiez en tout début d'émission, qui protégeait aussi la pierre.
La polychromie protège la pierre. Elle a un rôle éminemment, évidemment, décoratif, mais on tire un parti décoratif d'un impératif technique.
Alors, pour les nettoyages de la façade sud qui brille, oserais-je presque dire, maintenant d'une blancheur candide, comment est-ce qu'il faut procéder pour retrouver la pierre brute ?
On a procédé par micro-gommage, par brossage à sec, par dépoussiérage avec des aspirateurs industriels et des brosses, et ensuite par micro-gommage.
Qui se passe avec quel matériau ?
Alors, ça se passe avec de la poudre d'alumine très fine qui est projetée à nettement moins d'un kilo de pression, avec des buses plus ou moins fines, à telle ou telle distance. On fait des essais de convenance, et puis après, on se met au travail. Et en plus, les parties les plus délicates à enlever sont les fameuses croûtes noires qui affectaient les chapiteaux et les colonnettes dans les parties qui n'étaient jamais lessivées par les plis venant de l'ouest, les plis fouettantes. Donc, si vous voulez, on avait des amas de concrétion, de matériaux de pollution, si vous voulez, des gypses, des sulfates, etc., qui s'encroûtent, qui se mélangent avec la poussière atmosphérique et qui finissaient par faire ces croûtes noires qu'on voyait descendre le long de la façade sur les côtés ouest des colonnettes et dans les creux des chapiteaux, toujours est et dans les creux des chapiteaux, toujours tournés vers l'est, c'est-à-dire là où il n'y a pas de pluie fouettante. Alors ça, on le nettoie aussi par micro-gommage, mais avant, on l'amollit par des compresses. On finit quelques fausses scalpels et comme en général, ça fait un petit peu éclater la pierre dessous parce qu'il y a aussi des migrations de sel, des sels propres de la pierre, on préconsolide la pierre par des collages, des fragments de pierre, de façon à les maintenir en place pendant qu'on nettoie. avant la consolidation définitive qui se fait, elle, par application de silicate d'éthyle.
Ce qui a été fait dans les années 80 pour le portail royal, où on a dû intervenir aussi massivement.
Voilà, l'italien Non Pharmal avait fait une restauration extrêmement poussée, portail royal, qui tient toujours, qui n'a pas bougé.
Qui est très bien, mais on voit quand même, on croit voir apparaître à nouveau une différence de couleur entre certaines parties de la statuaire.
Oui, mais c'est surtout manifeste au nord, sur le portail que nous avons restauré, Guinéco et moi, autour des années 2000. Là, on a un jaunissement de la pierre et nous sommes en train de travailler avec le laboratoire national. C'est de la pierre qui a été nettoyée au laser, sauf les parties polychromes, et on se rend compte que le laser entraîne un jaunissement. Donc on est en train de mettre au point des techniques. Ce jaunissement est un peu inévitable. Il semblerait qu'il soit dû en fait à des produits de pollution, des périodes où la pierre a été à nu, c'est-à-dire à partir du moment où la polychromie a commencé à disparaître, à mettre la pierre à nu, et le moment au XIXe siècle où la pollution atmosphérique a complètement encrouté de crasse noire, comme on l'a vu à l'époque, la totalité de la sculpture et des portails. Il y a donc une période de 300 ou 400 ans où le matériau était au contact vraiment des pollutions atmosphériques qui existaient déjà, mais qui étaient infimes. On pense qu'il y a eu un développement de divers micro-organismes qui ont été évidemment nettoyés parce qu'il y a eu des nettoyages, des blanchissements par simple brossage ou au jet d'eau, comme on faisait dans le temps au 19e. Et qui sont rentrés donc assez profondément dans le matériau et qui ont tendance à être attirés à la surface. Alors, c'est une explication pour l'instant qui est très très sommaire, mais qui serait révélée par le traitement au laser. Et on a fait d'ailleurs plusieurs essais. Tout dépend comment on manie le laser, etc. Donc, mais en fait, le laser ne servira plus tout seul. On l'associera à d'autres techniques de façon à ne pas avoir ce jaunissement qui n'apparaît pas sur les statues à l'extérieur du portail nord qui, elles, étaient affrontées depuis fouettantes et qui sont restées complètement blanches malgré le laser. Donc elles ont donc toujours été lessivées. Les produits de pollution, même anciens, n'ont pas pu s'incruster et elles sont restées blanches malgré le laser. Alors ça devient, on a le problème à la cathédrale de Rouen, on a le problème dans divers monuments, ça devient un des grands sujets de réflexion du service.
Très bien, donc les changements de technique ou adaptation des techniques.
Voilà. Mais au demeurant, il faut savoir que si ce jaunissement ne nous satisfait pas, nous pourrons toujours arriver à l'évacuer.
Alors, est-ce qu'il est projeté, planifié de nettoyer la statuaire du portail sud qui est très encrassée?
Oui, absolument. Mais à la différence du portail nord où il n'y a pratiquement plus de traces de polychromie, j'ai fait les investigations avec l'équipe qui m'assistait dans l'étude préalable qui nous ont permis de voir que la polychromie était beaucoup plus importante. Donc on va s'y prendre différemment, mais effectivement c'est prévu dans les... on a beaucoup de sujets sur la cathédrale actuellement, mais c'est prévu dans un délai relativement bref de 2 à 5 ans.
Merci beaucoup. Je crois que nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre très intéressante émission. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Calvel. Je pense qu'on va se retrouver dans une prochaine émission pour parler un peu sur la restauration aussi des vitraux. On pourra prolonger aussi la question de la restauration et conservation de la pierre. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup à la technique. Bonne journée, chers auditeurs de Radio Grand Ciel.